pipi. Caca. Pup. Kus. Ayo, toilet.
Bonjour à tous et bienvenue dans Naître et Grandir aujourd'hui, le podcast à destination des futurs parents et des jeunes parents. Aujourd'hui, vous l'aurez sûrement compris, nous allons parler pipi, caca et tout ce que cela implique, couche, peau, etc. Pour beaucoup, cela correspond à la propreté, mais nous verrons aujourd'hui que ce n'est pas vraiment le terme adapté. Pour parler de tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir Rokia Hossein, alias Miss Psychomote. Vous l'aurez deviné, Rokia est donc psychomotricienne. Et elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des familles qui souhaitent mettre en place l'hygiène naturelle infantile, ou bien HNI, et a même écrit un livre sur le sujet. Je vous mettrai évidemment les informations en description. Nous allons donc faire un petit point sur ce concept de propreté versus acquisition d'incontinence, puis Rokia nous expliquera ce qu'est exactement cette fameuse HNI, et comment la mettre en place à la maison, que ce soit dès le départ ou un peu plus tard. Elle nous donnera aussi des conseils, pour ceux qui n'ont pas fait l'hygiène naturelle infantile et que le moment d'enlever la couche est venu. Rapport à l'entrée à l'école, évidemment. Bref, un sujet qui nous concerne tous et toutes et qui, on ne va pas se mentir, est souvent synonyme de stress. Bonne écoute.
Alors déjà, pour commencer, moi, je vais te laisser te présenter un petit peu, me dire qui tu es, ton parcours et comment t'en es venue à t'intéresser à l'hygiène naturelle infantile.
Je m'appelle Rokia Hossein, je suis psychomotricienne diplômée d'État depuis plusieurs années. J'accompagne aussi les parents, principalement en visio ou en atelier, sur l'hygiène naturelle infantile, la continence, la propreté, appelez ça comme on veut, quoi, le besoin d'élimination, et également formatrice. Et bien sûr aussi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'hygiène naturelle infantile » qui est paru chez Le Duc.
Alors, ce que je te propose, c'est… Avant de parler d'hygiène naturelle infantile, c'est de refaire un petit point, si tu veux, sur justement ces notions. Propreté, continence, quelle est, enfin, pas la différence, mais d'après toi, quel est le terme, même si j'ai un peu une idée de ta réponse, mais quel est le terme le plus approprié? Est-ce que apprentissage de la, enfin, apprendre à être propre, est-ce que c'est la bonne façon? Apprendre à être continent, apprendre à éliminer, enfin voilà, comment tu mets des mots sur tout ça?
Alors, ça me fait rire parce que j'ai un chapitre consacré à tout ce qui est vocabulaire, apprentissage ou acquisition, propreté ou continence. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé. Pour moi, il n'y a pas de mots qui sont vraiment à bannir parce qu'ils ont tous un sens, une histoire. Je préfère parler vraiment d'accompagnement du besoin d'élimination. Pourquoi accompagnement? Parce que ça regroupe le fait qu'il y a un apprentissage et en même temps une acquisition. Donc à la fois que l'apprentissage, ça vient un petit peu de l'entourage, des adultes qui accompagnent finalement, qui montrent à l'enfant comment faire, et une acquisition parce que ça vient également de l'enfant, donc de son étape de maturation, etc. Et besoin d'élimination, vraiment pour regrouper propreté, continence et hygiène naturelle infantile. Puisque dans propreté, c'est un terme qu'on n'aime pas, on aime rarement, mais c'est toujours celui-là qu'on utilise. Et c'est d'ailleurs le mot-clé quand on cherche des informations sur Internet. Hein. Oui. Donc, on va parler forcément HNI avec propreté, continence avec propreté. Mm. C'est un peu le mot qui va faire… qui relie, puis surtout le mot qui va permettre qu'on clique dessus, oui, et qu'on comprend de quoi on parle. Quand on parle de continence, ça… je pense que ça évoque moins de choses chez les parents, même si une fois qu'ils ont compris, ils sont OK. Besoin d'élimination, c'est encore tout nouveau. Notre concept, pourtant qui a toujours été là, parce que ça fait partie des besoins physiologiques primaires. Hein, on connaît tous la pyramide de Maslow, on va dire, à la base. Et on voit qu'il y a dedans le besoin d'élimination.
Oui, mais c'est vrai qu'on entend, pour le coup, on entend parler en tant que parent et tout. En général, c'est votre enfant, il est propre, il n'est pas propre. Il a des couches, il n'a pas de couches, et puis on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Et c'est que si on cherche un peu plus, quoi, que les parents rentrent dans tous ces concepts, effectivement, un peu par strates, comme tu dis, voilà, ouais. Propreté, continence, besoin d'élimination. Enfin, voilà, c'est en fonction de la recherche des parents, entre guillemets, et peut-être pas de l'implication, mais oui, de la volonté peut-être de comprendre aussi comment ça fonctionne, finalement, parce qu'on est tous capables, mais effectivement, c'est c'est inné sans être vraiment inné, en fait.
Ouais, c'est
ça. Enfin, on sait tous le faire en tant qu'adulte, mais à la base, quand on est, on ne sait pas le faire, il faut apprendre.
Exactement. Et puis, j'aime bien le concept de besoin d'élimination parce que ça le met au même rang, voilà, que les autres besoins primaires, que l'alimentation, le sommeil. Là où justement eh ben, le parent va chercher des informations et, pour accompagner son enfant.
Oui, le sommeil, la nourriture, tout ça, ça paraît logique aux parents, mais en fait, ça aussi, c'est un grand besoin. Et d'ailleurs, on voit bien les bébés, une des raisons pour lesquelles ils pleurent, c'est quoi ? Ils ont faim, ils ont froid, ils ont chaud, ils ont sommeil, ou il y a quelque chose dans la couche.
Donc, voilà. C'est... Ou même avant, dans le
même,
ventre.
Ou même avant, enfin, où il voilà, y a quelque chose qui gêne.
Un inconfort.
Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on repère chez le bébé, des signes d'inconfort ou qui manifestent. Mm-hmm. Et finalement, l'histoire. L'hygiène naturelle infantile, c'est accompagner ce besoin-là au même niveau que les autres. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est que l'hygiène naturelle infantile ?
L'hygiène naturelle infantile, je l'ai définie comme l'accompagnement du besoin d'élimination, dans le sens où on répond à l'enfant, on répond au bébé et on lui donne en fait les outils. C'est vraiment une communication entre le parent et son enfant. Je parle du parent voilà, de manière générale. Hein. Il y a d'autres personnes qui peuvent pratiquer l'hygiène naturelle infantile dans l'entourage de l'enfant, mais c'est vraiment en lien avec le terme anglo-saxon « elimination communication » qui signifie qu'on va communiquer vraiment autour du besoin d'élimination. Donc communiquer, ça veut dire écouter et puis apporter une réponse, etc. C'est vraiment un dialogue entre les deux. Mais parfois, quand on parle de communication, c'est un peu surfait. Les parents s'attendent à devenir un peu des experts des signaux des enfants. En fait, je crois que c'est compliqué. Voilà, on a besoin de tous un décodeur. Et il suffit justement d'utiliser des petits outils qui vont aider le parent à proposer le pot, à répondre à un inconfort, etc. Donc, il y a des moments propices qu'il faut vraiment connaître une fois qu'on les a en tête. Voilà, on s'en sert tout le temps. Enfin, ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment le truc qui aide. Puis après, les signaux que j'englobe dans les signaux du tout bébé, du nouveau-né jusqu'à l'enfant qui communique oralement. Oui. Quoi. Au début, il va peut-être juste signaler avec des grimaces. Après, il va commencer à battre des jambes. Ensuite, il va peut-être aller se cacher quand il va commencer à ramper, mettre dans une position qu'il fait rarement. Voilà, ça va vraiment être une communication qu'on va observer. Et puis, quand on va lui donner des clés de communication comme la langue des signes, voilà, le bébé va s'en saisir, alors qu'il ne peut pas dire encore le mot pipi et caca, mais il peut très vite s'en saisir.
Oui, voilà. Oui, c'est communication au sens verbal, gestuel, observationnel, en fait. Oui. C'est tout ce que l'enfant peut montrer, finalement. Pas juste que c'est vrai que quand on parle communication, souvent, on pense juste parler. Et avec un bébé, alors nous, on parle, mais il n'y a pas beaucoup de... pas beaucoup de retour finalement. Donc oui, en fait, c'est pas que verbal, c'est communication au sens large, quoi.
Et puis nous, comme tu dis, on parle avec l'enfant, c'est-à-dire qu'on va mettre des mots sur les ressentis des enfants et ça va permettre à l'enfant d'avoir un répertoire sensoriel et perceptif de plus en plus étoffé et il va pouvoir s'en servir. Donc s'il fait telle grimace, on lui dit « Ah, quand tu fais cette grimace, ça veut dire que tu veux faire pipi ou caca ?» Et bien l'enfant, il va se dire « Ah, c'est peut-être juste, et il va recommencer la même grimace. Si seulement ça pouvait durer 3 ans comme ça, mais non, l'enfant il va se dire je fais une grimace, et puis je vais tenter un nouveau mode de communication. Et à nous toujours de s'adapter finalement à l'évolution de l'enfant en fait. À partir du moment où il va dire pipi, on l'a compris, puis après il va faire des phrases. Enfin, on voit qu'il évolue. Et en fait, c'est vraiment de l'accompagnement progressif au rythme de l'enfant, selon son développement. Puis nous, on grandit beaucoup avec aussi.
Oui, c'est pas, faut pas que les parents se disent que voilà, on va faire ça pendant 3 mois et puis après, on a tout compris et ça va marcher à chaque fois. Et voilà, c'est vraiment, oui, c'est un apprentissage, c'est sur la durée. Et puis j'imagine que c'est comme tous les apprentissages, que ce soit justement au niveau de la nourriture, du sommeil, il y a aussi des petites phases où ça régresse un petit peu.
C'est ça, où il porte vraiment moins d'intérêt parce qu'il a des périodes sensibles pour autre chose. Donc, ça aussi, on le sait. Pourtant, on va pas arrêter de dire à l'enfant de manger. On va proposer autre chose, voilà, peut-être qu'elle en a un petit peu marre de la purée de carottes ou de tel ou tel fruit et légumes. On va lui proposer autre chose, on va pas le dire, tu n'aimes plus, je te donne plus. Le pot, c'est un petit peu la même chose. Comme on n'a pas encore assez de connaissances, on connaît très peu de personnes qui vont le faire dans notre entourage, on dit, peut-être qu'il est pas prêt. Ça, c'est un peu une grande erreur de vocabulaire aussi. Donc, on se dit, bah, là, à un moment, il a fait le pot pendant peut-être 3-4 mois, et puis tout d'un coup, il n'en veut plus, bah, on arrête. Alors que si on se dit non, c'est un besoin primaire, je n'arrête pas de communiquer dessus. Bon, peut-être que ça ne l'intéresse plus, mais ça fait toujours partie de mon quotidien. Moi, en tant qu'adulte, bah, j'y vais tous les jours. Oui. Je ne vais pas arrêter. Pareil avec l'enfant, c'est vraiment l'accompagnant en se disant, bon, d'accord, je vois que le pot, ça ne t'intéresse pas, mais moi, je continuerai de te proposer tous les matins. S'il y a une routine qui a été mise en place, on ne va pas l'annuler.
D'accord.
Un petit peu bah, comme pour les repas, en fait, j'ai envie de dire. Ça n'intéresse pas, on va proposer autre chose, on va essayer de rendre ludique le moment, etc. Et c'est pour ça que je dis aux parents, il faut garder un petit peu toutes les, comment dire, on va garder toutes les petites cartes de côté, parce qu'on ne va pas, par exemple, mettre tout de suite le pot super trop bien, l'enfant, il va l'aimer, et puis après, on ne saura plus quoi rajouter.
Oui.
Tu vois, un peu, pour apporter de la diversité,
la nouveauté,
la nouveauté pour l'enfant et de l'intérêt. Donc peut-être qu'au début, le pot, il est peut-être dans le salon. Puis après, on voit qu'il ne s'intéresse plus parce qu'il est dans le salon. Bah, on va peut-être le mettre un peu dans la salle de bain, et puis dans les toilettes. On va apporter un petit peu des nouveaux challenges. C'est ça qui intéresse l'enfant. Ça peut être aussi, tiens, maintenant, si tu essaies de retirer ton pantalon tout seul. En fait, il se sent autonome, responsable, et du coup, il est d'accord pour continuer. Mais s'il s'ennuie, il faut trouver de l'intérêt.
D'autres choses. Oui, puis comme là, tu dis, finalement, il y a l'apprentissage vraiment de la continence, du besoin d'élimination. Donc, il y a les signes qui repèrent et tout. Mais finalement, pour aller sur le pot, plein d'autres choses à apprendre.
Ah oui.
Il faut déjà enlever le pantalon, la couche ou la culotte. Il faut s'asseoir dessus dans le bon sens. Pour les garçons, il faut que quand même le zizi soit à l'intérieur
voilà.
du pot. Enfin, voilà. Enfin, bref, il y a plein de choses à apprendre, ouais, finalement.
Des petites choses, oui.
Un peu au quotidien. Et c'est vrai que de faire ça sur... la durée, quoi. Enfin, petit à petit, c'est plus facile que de faire ça en 3 semaines l'été avant l'école.
Exactement. L'enfant, il n'a pas cette pression-là. Et puis, le parent, je trouve, il y a quelque chose qui est très, très beau parce qu'il peut être très ému par les nouvelles compétences que l'enfant acquiert. Je veux dire, au début, quand on commence à apprendre le déshabillage en l'enfant, ben, on est tout fiers quand il retire ses chaussettes. Puis après, on dit, tiens, maintenant, si on passe au pantalon, tiens, on passe à une autre étape. On ne va pas lui demander, t'apprends à te déshabiller en entier.
Du jour au lendemain.
Voilà, c'est beaucoup de pression. Et puis, il a besoin de s'assurer qu'il a acquis une étape. Et puis, il passe à l'autre étape. Tu parles du déshabillage. Au début, on va peut-être avoir tendance à tout retirer. Puis après, petit à petit, on va lui apprendre à garder le pantalon aux chevilles. Enfin, il y a toujours de la nouveauté qu'on peut introduire auprès de l'enfant. Et puis, ça peut être même au terme d'essuyage, de lavage. Au début, c'est nous qui faisons. Et puis après, petit à petit, on lui donne des petites responsabilités. On va lui permettre peut-être de vider le pot. En fait, il y a tellement, tellement de compétences qu'il peut avoir qui peuvent déjà susciter l'intérêt et puis le faire progresser petit à petit.
Ouais, c'est ça. Bah, moi, là, actuellement, mon fils, donc, il a 2 ans et demi. Effectivement, au départ, quand on a commencé à lui proposer le pot, donc un certain nombre de mois, c'était avant ses 2 ans. Au début, en fait, bon, même s'il n'y avait pas de pipi, il voulait aller verser le pot dans les toilettes.
Ouais.
Et puis, il fallait tirer la chasse d'eau. Enfin, c'était,
il avait déjà tous les rituels.
Ouais, c'était rigolo, enfin, c'était le truc, enfin, finalement c'était plus ça qui l'intéressait. Mais bon, on l'a laissé faire et puis bah, petit à petit après c'est venu et tout. Mais c'est vrai qu'il nous suit aussi. Finalement c'est un truc, les enfants on se rend compte, ça les intéresse. Ce qui se passe aux toilettes, je veux dire,
oui.
Ou ce qui se passe dans leur couche aussi. Moi là il a un peu arrêté, mais il y a eu toute une période où chaque fois qu'on changeait la couche, il fallait qu'on regarde dans la couche ce qu'il y avait. Enfin c'était, voilà, ça l'intéressait. Et puis oui, il veut suivre ça sur aux toilettes, machin, ou même moi, mon mari, enfin. On sent que c'est un sujet qui les questionne, puis ça travaille, quoi, en fait. Et justement, est-ce que ça, quand il y a toutes ces questions-là, ils sont intéressés par là, est-ce que c'est pas un peu le moment de sauter sur l'occasion?
Si, totalement. Je dirais, voilà, j'appelle ça une fenêtre d'intérêt. Mais oui, il faut sauter sur l'occasion, même si on ne sait pas par quoi commencer. Voilà, tu as présenté le pauvre, il le connaissait déjà, mais il a déjà appris beaucoup de choses, je me rends compte. Mais oui, il faut sauter sur l'occasion et pas se dire, ah non, il n'est pas prêt. Pour qu'il soit prêt, déjà lui présenter une opportunité. Encore une fois, si je fais le parallèle avec le besoin d'alimentation, bah, il ne sera pas prêt à manger, je ne sais pas, du steak si on ne lui présente pas du steak, en fait. Voilà. C'est la même chose, en fait. Il ne pourra pas être prêt si on ne lui présente pas. Bien sûr, ça ne veut pas dire que, comme tu disais, dès le pot, il va s'asseoir, il va tout faire en une fois. Moi, des enfants, ils ont besoin de prendre un certain temps pour se familiariser avec cet outil-là. C'est quoi ce pot? C'est dangereux, mais comment on s'assoit? J'ai les fesses qui tombent dedans. Enfin, voilà.
C'est froid.
C'est froid. Hein. Mais oui, l'idée que... quand il s'intéresse, ça ne veut pas dire qu'il va faire pipi dedans. Enfin, j'aime pas dire prêt, mais qu'il va pas faire un pipi tout de suite dedans.
Ça va pas marcher du tac.
Voilà. Et puis peut-être qu'il l'aura fait une fois, il ne saura même pas comment. Et du coup, c'est vraiment à nous de rebondir sur du vocabulaire. Ah, tu as fait pipi. Quand un enfant il fait une expérience un petit peu, bah par hasard qu'il réussit, il n'est pas certain de pouvoir le refaire. Voilà. Et donc il a besoin de nous pour le guider, pour lui montrer comment faire et qu'il a déjà fait, donc il en est capable encore, etc. Il y a vraiment un accompagnement et un investissement.
Après, d'un autre côté, les apprentissages, moi, je sais que d'un point de vue moteur, c'est ce que j'explique aux parents. Clairement, le retournement, là, les premières fois, c'est un coup de bol. Il a essayé un truc et puis ça marche. La fois d'après, il réessaye un autre truc, ça marche pas. Puis à force de coup de bol, entre guillemets,
exactement.
Ça finit par comprendre comment ça fonctionne. Donc j'imagine que pour le pipi, c'est pareil. La première fois, il s'assoit dessus, coup de bol. Il avait envie, c'est sorti et voilà. Et puis il va y avoir peut-être 2-3 fois comme ça un peu de chance. Et puis il va finir par comprendre que, ah oui, alors si je fais ça, si je me concentre, ça marche. Ça. Et puis là, du coup, ça s'arrête. Enfin voilà. Mais c'est comme tous les apprentissages, en fait, ça marche par des essais, quoi, en fait.
Exactement. Hein,
Donc il y a des ratés aussi.
Ah oui, bah oui, bien sûr qu'il y en a. Et il y a des moments où justement c'est un peu long, on voit qu'il s'assoit, mais c'est pas le moment. Dans ce cas-là, on peut lâcher, puis on revient un petit peu après. Voilà, c'est vraiment un apprentissage ensemble, et on s'adapte vraiment à son enfant. Hein.
Ouais. Est-ce que tu as du coup des petits tips, des petits conseils à donner aux parents en fait, qui veulent le mettre en place à la maison ? Donc on a dit voilà, il peut y avoir des fenêtres d'opportunité, c'est le bon moment. Mais est-ce qu'il y a d'autres moments ? J'en sais rien. Même si c'est pas une période là, dans 6 mois il y a l'école. Est-ce que c'est pas quand même, même si l'enfant est pas forcément intéressé par ça à l'heure actuelle, est-ce que c'est pas intéressant de le mettre quand même, d'essayer de le mettre en place à la maison, de lui présenter ? Est-ce qu'il y a des astuces ? Comme je te disais l'autre fois, moi c'est vrai que ma fille, on l'avait mis en place très tôt parce qu'elle avait les fesses très abîmées à cause des sels qui lui brûlaient les fesses. Donc Lydia m'avait dit à 1 an, bah laissez-la les fesses à l'air, prenez un pot, tout ça. On a mis le pot très tôt et donc pour qu'elle apprivoise ce pot, on avait collé des gommettes dessus et donc c'était son petit pot princesse. Bon. Et finalement, elle s'était mise à faire, pas petit à petit, hein, mais assez vite, d'aller sur le pot, et elle a été propre. Finalement, avant ses 2 ans, donc relativement tôt, mais est-ce que, voilà, il y a des petites astuces comme ça pour les parents qui veulent le mettre en place à la maison ? Et puis, en fonction des âges, j'imagine que ce n'est pas forcément les mêmes conseils, non ?
Un des conseils que je donne vraiment, c'est la régularité, voilà, plus que de manière un peu aléatoire, parce que ça donne beaucoup de responsabilités au jeune enfant qui ne sait pas comment il a fait. Et puis nous-mêmes, on ne sait pas quand c'est arrivé, etc. Alors que si on est régulier, on va mettre en place une routine. Et là, l'enfant, il est rassuré et les parents aussi. Notamment, une des routines que je propose souvent, ça va être peut-être le réveil. Ce n'est pas le meilleur moment pour certains parents, mais ce n'est pas le réveil du matin. On peut trouver une autre routine. Vraiment, on s'adapte en fonction de notre planning. Parce que le matin, pourquoi ? Parce qu'il y a forcément un petit pipi, un gros pipi parfois. Le matin qui va arriver, dans ce cas-là, c'est une réussite pour l'enfant et c'est une réussite également pour le parent.
C'est plus facile, dans un mood positif. Quoi,
exactement, ils vont recommencer le lendemain matin, le lendemain, etc. On continue. Et puis petit à petit, on peut ajouter un autre moment. Ça peut être après la sieste, ça peut être après les repas. En fait, on va instaurer des petites habitudes qui vont rassurer tout le monde. Et c'est surtout comme des moments opportuns. Parce qu'on peut mettre des routines par exemple, à 10h du matin, mais ça ne correspond pas à grand-chose. Vaut mieux mettre une routine où, en fait, on est sûr qu'on est disponible et qu'on va lui proposer. Il y a beaucoup de parents qui me disent que, eux, c'est plutôt le soir, par exemple, après le repas, entre le repas et le bain, par exemple, ceux qui font le repas et puis le bain. Oui, souvent, c'est à ce moment-là que je vais lui proposer avant le bain. Je dis, mais attendez, passe quoi avant le bain ? Elle me dit, c'est le repas. Ah, c'est intéressant, dans ce cas-là, oui, mais parlez plutôt en termes de après. L'enfant, il n'a pas la notion du temps. Et on lui dit, tu vas au pot avant le bain. C'est plus facile pour lui de se dire, j'ai fini de manger, puis on va au pot. Et puis après, on va au bain, etc. C'est plus facile dans le après. Il y a des parents qui se contentent très bien de cette routine. Puis après, je leur dis d'inclure une autre, par exemple, celle dès qu'ils rentrent à la maison. Mmh. On a peut-être maintenant le réflexe d'aller se laver les mains, etc. Et ben, on fait pareil avec l'enfant. On lui dit, souvent, peut-être que là, il rentre à la maison. Il est dans un environnement où il peut se relâcher. C'est propice. Peut-être qu'il va faire pipi, peut-être pas au début, mais peut-être après, en nous imitant, comme on fait peut-être pareil, il va prendre ce pli-là. En soi, les routines, ce sont vraiment des alliés. C'est pas une façon militaire hein, vraiment d'accompagner l'enfant parce qu'on fait pas heure par heure. On fait par rapport au vécu de l'enfant juste avant, à son expérience. Il a mangé, il va aux toilettes. Et ça fait partie vraiment d'une hygiène de vie aussi, ça c'est important. Mais l'idée c'est, on maintient le cap.
Oui, pas lâcher, il dit non, propose et puis ça va revenir.
Et vraiment, on passe tous par ces étapes-là. Moi je me rappelle quand j'ai déménagé, j'avais pas repris le réducteur. Puis là, je l'avais pas repris, je sais plus où il était. Et je dis, on va aux toilettes. En fait, ça n'intéressait pas. Et moi, je voulais vraiment pas de pot parce que je trouve pas ça très hygiénique. Enfin, voilà, sur le coup, moi, si je peux aller aux toilettes, depuis qu'il est petit, dès qu'il évacue, c'est fini, quoi. J'ai pas de corvée après, on va dire. J'ai pris le pli, et puis bon, quelque chose qui m'a arrangé, moi. Et puis, je voyais que ça n'intéressait pas, les toilettes. Je dis, j'ai récupéré le réducteur. Et en fait, ça n'intéressait toujours pas. Je dis, mais il y a quelque chose. Et je me dis, tiens, je vais lui proposer le pot que j'avais déjà acheté. Et je lui laisse. Et pendant 2 jours, il a exploré. Il a grimpé dessus comme un tabouret. Il l'a mis sur la tête. Enfin, il a exploré vraiment la 3 dimensions, en fait, du pot. Et puis, il s'est assis. Et d'ailleurs, il s'est pas assis vers l'arrière, il s'est assis à cheval. Il a plutôt préféré mettre les deux jambes de côté pour s'asseoir. Ça le rassurait plus que de s'asseoir en arrière dans le du vide. Et pourtant, pendant cette période-là, bah, je voyais bien qu'il éliminait encore dans la couche ou bien qu'il éliminait, par exemple, dans la douche. Je dis, bah, tu vois, tu continues d'éliminer, bah, continue. Et moi, à ce moment-là, je dis, bah, mets-toi en accroupi. En fait, je gardais toujours la communication dessus. Je montrais pas que j'étais déçue ou impatiente. Il y avait aucun rapport. Il voulait autre chose et bah, je présente autre chose. Je suis tombée juste au bout de quelques temps parce que j'ai quand même présenté le réducteur et ça ne l'intéressait plus. Nouvel environnement, bah, je veux plus du réducteur. Okay.
Oui, mais après, de toute façon, c'est comme on disait, il y a des sortes de régressions, oui. Hein, que ce soit quand ils sont malades, quand voilà, un déménagement, typiquement, c'est quand même gros changement. J'imagine que s'il y a l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, enfin, toutes ces choses-là, bah, ça t'avait fait régresser un peu, mais c'est pas grave, ils régressent pour mieux repartir.
Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment regarder toujours avec bienveillance, se dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour l'enfant et pas abandonner.
Oui.
Ce serait dommage, en fait, parce qu'il a acquis une bonne expérience et, en fait, on abandonne comme si c'était pas important. Donc l'enfant, il se dit, si c'est pas important, et ben pour lui, ça ne l'est pas aussi.
Ouais, je comprends. Alors, donc, si on n'a pas mis en place, alors pas dès le départ, mais voilà, j'en sais rien, son enfant, il a un an, 15 mois, 18 mois, et qu'on veut l'accompagner dans ce besoin d'élimination, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment à éviter? Tu vois, par exemple, là, tu disais, tu as continué à communiquer, etc., à verbaliser. Mais j'imagine que, voilà, on lui présente le pot, il ne veut pas s'asseoir dessus. Enfin, si on le force, si on... ou si on a des mots négatifs, enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est... j'imagine, hein, je me doute de la réponse, mais qu'il y a des choses quand même à éviter pour l'accompagner au mieux, quoi, en fait.
Ah oui, c'est intéressant. Rarement ce genre de questions. C'est vrai, parce qu'on veut toujours savoir comment bien faire, et puis on se dit pas, bah, qu'est-ce qu'on peut faire
Parfois, il y a des choses, voilà, on peut se dire, j'en sais rien, ouais. Typiquement, on change la couche des bébés, enfin, pas se mentir, ça sent pas très bon. Est-ce que le fait de dire devant eux, oh là là, qu'est-ce que ça sent pas bon, enfin, alors, même si c'est un fait, mais... de mettre parfois une connotation négative sur tout ce qui se retrouve dans la couche, dans les toilettes après et tout. Est-ce que ça peut avoir un impact? Voilà, il y a des choses qu'on fait naturellement et qui sont peut-être pas des bonnes idées. Hein.
Ah oui, oui, par exemple, en effet, parler de manière un peu négative de ses selles. Je pense pas que nous, on a préféré, une fois qu'on passe aux toilettes, que quelqu'un dise derrière nous...
Ah, ça sent pas bon, ouais, ouais.
Oui, enfin...
Non, c'est clair.
C'est clair, donc on peut facilement se mettre à la place de l'enfant à ce niveau-là. Et puis d'ailleurs, il y a un nom pour les personnes qui sont gênées d'aller aux toilettes. Voilà, par coup privé, donc poop shaming. Voilà, je vous invite à lire mon post dessus. Je suis d'accord avec l'idée qu'on peut essayer de parler de manière plutôt positive. Et puis, c'est un fait, ça sent pas très bon, je suis d'accord. On n'est pas obligé d'en mettre une grande valeur de jugement, en fait, plutôt dedans.
Non. On évite de dire « Ah là là, c'est dégoûtant, mais qu'est-ce que ça fait ?» Voilà, on en rajoute pas des tonnes.
Oui, parce qu'il l'a pas fait exprès. Enfin, oui, ça vient de lui, en plus. Et il sait pas que nous aussi, que c'est pas très ragoûtant aussi, mais on n'en parle pas de nous, alors pourquoi on parlerait de lui ?
Peut-être aussi lui dire, enfin, si j'en sais rien, ça sort, bon, ça m'est déjà arrivé, on change la couche, je dis « Ah oh là là, ça sent vraiment pas bon. » Et à ce moment, je me dis oh, « Il faut pas dire ça. » Et donc, je dis « Mais tu sais, moi, quand je vais aux toilettes, c'est pareil. » En fait, les choses à niveau que c'est pareil pour tout le monde, quoi, et que lui se sente ou elle se sente pas jugé ou déprécié ou j'en sais rien.
Tout à fait.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça qui peuvent être des mauvaises idées où on se dit c'est une bonne idée et en fait pas du tout?
Alors peut-être une idée qui me vient, c'est vraiment le tout ou rien, enfin, c'est-à-dire pendant des années l'enfant il est en couche et puis tout d'un coup on lui demande en une semaine voilà, là ça peut être un petit peu une mauvaise idée pour... il y en a qui sont très sensibles et que ça va fonctionner, hein, je dis pas le contraire, mais ça va pas être le cas pour tous les enfants et ça c'est important en fonction de la sensibilité, en fonction de l'intérêt. Alors c'est clair que si on a pris tout le combo, il est dans la période où il est sensible aux toilettes et puis on est disponible et en une semaine ça peut être réglé, si vraiment on a mis tous les facteurs ensemble, mais parfois c'est pas le cas, donc on oublie un peu l'idée de tout faire en une semaine. C'est beaucoup, beaucoup de pression et l'enfant, il le ressent. Une des choses, justement, à éviter, c'est de faire le reproche à son enfant quand, justement, on a fait une période un petit peu sans couche et qu'il fait pipi sur lui et qu'on lui dit « Ah bah, tu vois, j'aurais dû mettre une couche, etc. Tu sais pas faire, il faut apprendre à te retenir. » En fait, il y a plein de vocabulaire qui sont pas adéquats parce que, justement, si c'est une mission involontaire, il y est pour rien. Et puis, elle va devenir de plus en plus volontaire à force de pratique et... on veut qu'elle soit volontaire au bon endroit, au bon moment, donc c'est de l'expérience encore. Mais vraiment, l'idée de ne pas reprocher à l'enfant, parce qu'il n'en est pas totalement capable encore, il est en train d'apprendre une nouvelle compétence.
Oui.
Voilà. On ne va pas priver un enfant qui est en train d'essayer de manger à la cuillère de cuillère.
Oui, parce qu'il l'a fait tomber. Ou...
Voilà, c'est ça.
Oui, oui.
prépare un petit peu avant, ou t'as qu'à mettre une nappe par terre, je sais pas. Vraiment, revenir sur une expérience qui s'est passée après, l'enfant, il peut plus rien faire, en fait. Mmh. C'est trop tard.
D'accord. Est-ce que, par exemple, s'il y a un accident, voilà, il y a un temps sans couche, il y a un accident, donc on lui dit pas, effectivement, que c'est pas bien, etc. Mais est-ce que ça vaut le coup de rediscuter avec lui, de dire, bah voilà, enfin... qu'est-ce que tu as ressenti?
Tout à fait.
Enfin, pareil, lui dire, enfin, essayer de revenir finalement aussi sur ces moments d'échec, entre guillemets, d'un point de vue positif.
Exactement.
Revaloriser, dire, tu vois, juste avant, peut-être t'es gêné dans le bas du ventre, ou voilà. Les petits garçons, donc quand c'est dans le bain, enfin dans la douche, quand il y a des temps où il fait ça à l'air ou comme ça, bah, c'est vrai que souvent quand ils ont envie de faire pipi, il bah, y a le zizi qui est un petit peu plus dur, un peu plus tendu, et c'est vrai que parfois, bah, je lui explique, je lui dis, bah, tu veux pas aller sur le pot? Non, non, non. Je dis, bah, tu vois, regarde, tu sens ton zizi, il n'est pas tout à fait pareil que d'habitude. Peut-être que c'est le signe qu'il a envie de faire pipi. Hein. Et bon, parfois, il dit, ok, on va sur le pot. En général, il y a un pipi. Et puis parfois, il dit, oh, non, non, je veux la couche. On remet la couche. Puis deux minutes après, il a fait pipi. Mais en fait, juste à ce moment-là, il ne voulait pas. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Pour les petits garçons, il y a ce truc-là. C'est vrai que souvent, ça marche quand même bien. Après, il faut qu'ils soient les fesses à l'air.
Oui, bah, s'il ne peut pas se regarder, en effet, c'est compliqué.
Mais c'est vrai que c'est un petit signe qui est plus facile. Les petites filles, c'est... Il y a moins de signes visibles, entre guillemets.
En tout cas, anatomiques.
Anatomiques, voilà, c'est,
voilà
ça.
C'est ça.
Après, c'est très moussé ou, ou des choses comme ça.
On le fait toutes.
Ouais, ouais, c'est ça, toutes.
Et puis, j'aime bien le fait que tu montres une trémousse. En fait, nous aussi, en tant qu'adultes, on peut montrer à l'enfant « Ah, moi aussi, je veux aller aux toilettes. » Enfin, on peut un peu surjouer un petit peu nos réactions. Pour que l'enfant se dise, ah, c'est ça. Et puis après, l'enfant, ce qui est très drôle et mignon, c'est qu'après, lui-même, il va surjouer. Mais en fait, quand il va surjouer, c'est comme une façon de communiquer pour nous. En fait, il va reprendre nos codes de communication. Et ben, ok, on a compris. Faut pas hésiter à montrer comment nous aussi, on ressent.
Oui, quels sont les signes pour nous. C'est ça. Lui ou elle peut ressentir la même chose, finalement.
Tout à fait. Et toujours, que c'est normal.
Ouais, ouais, toujours revenir sur le fait que c'est normal et naturel et pas dégoûtant. Comment on fait si on a mis en place des choses à la maison et qu'on voudrait que la suite soit un peu prise à la crèche et la nounou? Est-ce que, déjà, d'après ton expérience, il y en a qui acceptent des nounous ou des crèches d'accompagner l'enfant dans ce besoin d'élimination de façon un peu, on va dire, précoce? Parce que souvent, quand ils sont la dernière année avant l'école, ils le font. Mais avant ça, est-ce que il y a une façon de le présenter? Alors, j'imagine, de toute façon, il faut leur expliquer ce que c'est, mais... On leur propose de remettre en place les mêmes choses qu'à la maison, finalement, peut-être une petite routine.
Exactement.
Comme à la maison.
C'est ça.
Après le déjeuner ou après la sieste, ou voilà. On reprend un peu les mêmes.
Les mêmes mécanismes. Voilà, tout à fait. C'est comme lorsque on va enseigner un petit peu au personnel de crèche ou à l'assistante maternelle que l'enfant, quand il fait tel signe, le pipi, bah, qu'elle comprenne ce que ça veut dire. Et puis, il y en a qui vont être réceptives. Puis il y en a qui vont l'être moins, en sachant que l'enfant, il est capable d'identifier les personnes. En fait, il va un peu voir ses figures d'attachement. Je vais parler plutôt de figures de référence, parce que même au sein d'une famille, il se peut que ça soit que la mère qui pratique l'hygiène naturelle infantile, et le père pas du tout. Et l'enfant, il va se dire, bah, si j'ai un besoin qui se manifeste, je vais plutôt aller vers maman. Et il n'y a rien de choquant dans le sens où bah, l'enfant, qu'il veut une tétée, il va demander à papa. Bon, il y a des choses quand même, si on peut partager, ce serait mieux. Mais en fait, à partir du moment où l'autre parent ou les autres adultes montrent de l'intérêt, qu'il a compris, qu'il fonctionne comme ça, l'enfant va s'en saisir. Au contraire, très content d'avoir d'autres personnes qui peuvent l'accompagner. Mais si ça ne fonctionne pas, eh bien, l'enfant va se contenter de suivre un peu le groupe et de continuer à faire ses besoins dans la couche. Ou peut-être qu'il va le manifester plus vite, c'est-à-dire qu'il va peut-être trouver ça inconfortable, il va le dire.
Ouais.
Et en général, les adultes, ils ne vont pas laisser. Oui. J'espère, en tout cas. Les enfants dans les couches souillées. Donc ça, c'est important déjà de se dire, bon, si ça ne prend pas, ce n'est pas très grave. Nous, on continue à la maison.
Ouais.
Ça ne va pas changer grand-chose, si vous voulez, pour l'enfant, tant que l'enfant, il sait que nous, on continue. C'est comme...
Oui.
Et je rejoins vraiment ton idée sur le fait qu'il faut donner les outils. Alors, il ne faut pas donner des leçons.
Oui.
Vraiment, je dis ça, on ne donne pas des leçons aux professionnels, et personne n'aime ça. Hein. Mais on va plutôt leur dire, bah, en fait, moi, j'ai remarqué que ma fille, après les repas, elle aime bien aller au pot, faire pipi ou des voyages du caca. On leur dit, puis le personnel va se dire, bon, bah d'accord, après le repas, je l'emmène avec l'autre groupe. Ou...
Là, enfin, le repas, il passe par la salle de bain. Donc,
c'est il faut que ça soit vraiment intégré dans le quotidien. Comme je vous ai dit, lui dire qu'à 10 heures...
Que ce soit facile, quoi,
voilà,
à intégrer dans la routine aussi de la nounou ou de la crèche, finalement.
C'est ça. Moi, je parle beaucoup d'association de moments, tout le temps. C'est comme ça qu'on retire la charge mentale. On n'a pas à se dire, ah, je ne l'ai pas emmené, je l'ai emmené, parce que ça va avec, ça devient un automatisme pour nous, ça va devenir un automatisme pour l'enfant.
Ouais.
Tellement que ça devient automatique que l'enfant, quand on va oublier, il sera capable de nous le dire. Voilà, bah ça, ils n'oublient pas. Hein. quand les routines elles sont bien mises en place, ils n'oublient pas. Mais quand elles ne sont pas encore mises en place,
oui, forcément,
ça passe à la trappe.
Ouais, hein. Ouais.
Mais oui, totalement. Raconter comment on fait et puis...
Proposer quoi, au moins. Et après, soit la personne est, on va dire, encline ou elle comprend le principe, etc. Elle tend, enfin, il y a tout ouais. Ça aussi. Hein, parce que...
C'est ça. Et puis rappeler que de toute façon, d'ici 3-4 mois, par exemple, hein, je le dis pour rigoler, mais d'ici la prochaine infection, vous allez l'emmener. Donc, vous pouvez l'emmener maintenant, en fait. Lui dire que c'est qu'une question de moi, en fait. Après, voilà, il y a un nombre d'enfants, etc., je comprends bien.
Oui.
Mais une fois que ça rentre dans les gestes quotidiens, c'est beaucoup plus facile. À l'heure actuelle, je le dis encore, je pense pas qu'il y ait encore beaucoup, beaucoup de bébés qui pratiquent l'hygiène naturelle infantile. Donc, ça sera peut-être un enfant ou deux, allez, maximum.
Mais c'est bien sûr, mais c'est vrai que bah, pour les parents qui sont intéressés par ça, ça peut être un frein aussi de dire, bah, en fait, ça sert à rien parce qu'à la crèche, ils vont pas vouloir, chez la nounou, enfin... Alors qu'en fait, ils se mettent des idées avant même maintenant d'avoir parlé avec l'équipe pédagogique, à la crèche ou avec l'assistante maternelle. Donc c'est comme maintenant les parents qui veulent faire la DME. Alors à la crèche, c'est pas possible, mais il y a certaines nounous qui vont être, voilà, elles vont comprendre et elles vont pouvoir le mettre en place plus rapidement si on leur explique, etc. Mm-hmm. Après, c'est pareil, la DME, il y a des bébés, hein, ils font la DME à la maison, puis chez la nounou, ils mangent des purées et puis ça se passe très bien.
Exactement, et... c'est un très bel exemple.
Donc voilà, c'est pareil pour le pot finalement. C'est bien, on peut tout ramener à la comparaison peau-nourriture.
Mais oui, dès qu'on parle besoin d'élimination, c'est tout d'un coup, c'est limpide. Et les parents, ils peuvent se faire confiance parce qu'ils voient qu'ils font déjà ça.
Oui, pour d'autres choses, mais donc ils sont capables de le faire aussi pour ça.
Voilà.
Ok. Alors, pour ceux qui ont raté le coche, entre guillemets, donc là, on est en janvier. Et en septembre prochain, il y a la rentrée à l'école. Alors, c'est pas encore trop raté le coche.
Ah oui,
non,
oui,
ça va.
Non,
ça va. Mais voilà, pour ceux voilà, où il va y avoir l'entrée à l'école, ou pour ceux qui écouteront plus tard et qui se rendront compte qu'il ne leur reste pas beaucoup de temps avant la rentrée à l'école, est-ce qu'il y a des conseils, en fait, pour les, vraiment les plus grands, pour amener ça et pour les aider tout simplement dans ces choses-là? Alors, tout à l'heure, tu as parlé, donc il y a les signes, mais c'est vrai que quand ils sont plus grands, ils peuvent, à partir de 2 ans, 2 ans et demi, ils peuvent commencer à parler. Donc, il faut leur apporter, j'imagine, les bons mots pour qu'ils s'apprennent à verbaliser, etc. Et voilà, et comment, pour des plus grands, on leur amène? Parce que ça fait 2 ans et demi qu'ils ont des couches, bah, comme tu disais, du jour au lendemain, proposer le pot, ils vont pas forcément avoir envie, avoir... Est-ce qu'il y a des petites astuces pour les plus grands, pour les aider?
Pour éviter, justement, toute opposition, et puis la pression, surtout si la fenêtre d'intérêt n'est pas là, donc là, du coup, on n'a pas tous les bons facteurs. Ce serait plutôt de redonner confiance à l'enfant, parce que là, l'enfant, il croit qu'il n'en est pas capable. Parce que pour lui, il a toujours fait dans la couche. Et en termes de physiologie, on va parler plutôt de relâchement un peu involontaire. Ça le dérange, il fait pipi, il ne sait même pas des fois qu'il l'a fait. Par contre, pour les selles, comme c'est un peu plus dérangeant au terme de sensations, peut-être que là, il sera capable de le dire. Mais des fois, ils ne le savent pas. Et puis surtout, la couche jetable, elle va annuler l'effet. L'enfant, il va ressentir quelque chose à l'intérieur de sa vessie. Il va peut-être relâcher volontaire ou involontaire, ça c'est lui. Hein. Mais il ne va peut-être pas avoir de conséquences. Sur le coup, il me dit, c'était rien, c'était juste quelque chose qui me dérangeait. Et puis ça s'est très très vite annulé. Du coup, quand on va lui demander de faire pipi, il me dit, mais de quoi tu parles? Voilà, et ça c'est compliqué. Dans ce cas-là, moi j'inviterais... Alors s'il y a des temps sans couche, ça permet justement de, j'appelle ça, de catcher, d'attraper le moment où il fait et d'en parler avec lui. Bon, il est grand, il se balade partout, c'est peut-être pas idéal, voilà. Dans ce cas-là, reprendre peut-être des moments avant le bain, par exemple, ou dans la douche, où en fait, il y a une probabilité, comme je disais tout à l'heure, qu'il fasse pipi dans la baignoire, et hop, il fait pipi dans la baignoire, il fait « Ah bah, tu fais pipi en fait! Tu sais comment t'as fait pipi ?» Il lui racontait peut-être sous forme d'histoire, « Ah, c'est un peu comme le robinet, tu vois, tu l'ouvres, tu l'éteins, pour ceux qui ont accès un petit peu à cette imagination, d'autres qui n'en ont pas du tout, hein, pas encore. » Et en fait, lui dire « Bah, c'est comme ça que tu fais, moi c'est comme ça que je fais, enfin, raconte, parler de soi. » Et puis, puisque tu sais le faire là, on va voir demain, par exemple, si tu peux enclencher ton pipi, le déclencher. En fait, il va se rendre compte qu'il peut le faire de manière volontaire. S'il est capable de faire de manière volontaire, là, il se dit, je pourrais faire de manière volontaire sur le pot. Parce que tant que ça reste involontaire, réflexe, en fait...
Il ne contrôle pas.
Et là, en fait, il se dit, je suis capable de le faire. Dans ce cas, on va dire, si tu es capable de le faire, peut-être que, pourquoi pas, des fois, pour certains enfants, on fait vraiment étape par étape. Il dit, tiens, regarde, je te permets le pot dans la baignoire, comme ça, pourquoi pas. Comme ça, regarde, essaye de faire pipi. C'est pareil, c'est toujours la même baignoire, etc. Et fais pipi peut-être accroupi. Déjà, si on peut le faire accroupi dans la baignoire, c'est très très bien. Mais voilà, l'idée, c'est d'apporter une nouveauté, enfin une variable. J'appelle ça des variables, une à la fois. Oui. On évite de tout chambouler, parce que là, l'enfant, il est encore en train de se connaître, de découvrir des choses. Et puis après, lui dire, dans la journée, est-ce qu'il y a des moments où tu ressens la même chose qu'avant que tu fasses pipi dans la baignoire? Tu sais, quand je vois que ça te... Ça te gêne. Tu vois, tu poses la main sur ton ventre. Ça, c'est des signes de ton corps. En fait, c'est à nous de redonner toutes les traductions du corps. L'enfant, il en a, mais il ne les a pas enregistrées.
Mais il ne sait pas les interpréter aussi.
Voilà, exactement. Il ne sait pas encore les interpréter. Et en fait, c'est nous, en tant qu'adultes, on va lui donner des signes. On va voir l'enfant en train de courir, il va s'arrêter de courir. Une fois, deux fois, on se dit, mais il y a quelque chose qui te gêne. Peut-être que tu as besoin de faire pipi. Il va peut-être dire non, il va faire pipi. Et là, on dit, bah, tu vois, c'était le signe de ton corps. Peut-être qu'il regarde, je sais pas, un petit dessin animé, et tout d'un coup, il a envie de se lever. Hop, c'est peut-être que tu as besoin de faire pipi. En fait, il y a plein de signaux, mais l'enfant, il ne l'interprète pas. Et surtout que quand il a une couche, bah, ça ne le dérange pas.
Ouais.
Donc, il y aura un moment, il faudrait faire des périodes également sans couche pour que l'enfant fasse du lien entre ce qu'il ressent et ce qui se passe après. Un petit peu, l'erreur, justement, c'est de parler des sensations ou parler de ce qui se passe après. Ah bah, tu vois, ta couche est mouillée, tu as fait pipi. Bah, peut-être que ça fait 10 minutes, il s'en rappelle même pas.
Mmh.
Et en fait, la couche est mouillée, mais lui, il ressent même pas que c'est mouillé. Ça fait... Son corps, il s'habitue à une sensation. Donc, il va pas voir la différence. Donc, vraiment, la clé dans la communication, c'est parler de tout ce qu'il y a en amont. Sur les sensations, sur son comportement un petit peu avant, qui sont des signes avant-coureurs.
D'accord. Oui, si on sait rien, il est en train de jouer, on débarque au bout d'un quart d'heure et puis on voit qu'il y a la couche est pleine. Effectivement, on n'a pas vu, il est en train de jouer, ça sert à ce moment-là, c'est pas le moment d'essayer de verbaliser.
C'est pour ça que si on perd des moments sans couche, il vaut mieux le faire sur des courtes périodes.
Où on est vraiment là, quoi, en fait.
Voilà, faut qu'on soit avec lui au tout début pour qu'on puisse, comme tu dis, revenir et parler tout de suite. Le matin, la couche est peut-être déjà pleine de la nuit, on lui a proposé le pot, il veut pas encore. C'est pas grave, on lui retire la couche et on voit le matin comment ça se passe. Et après, c'est pas grave, on va le changer de toute façon, peut-être avant de partir. Et là, on arrive à attraper un moment, on se dit, ah tiens, peut-être que mon enfant, il fait peut-être plutôt pipi après le biberon du matin.
Mm.
Et alors que nous, on s'est dit, je l'amène tout de suite le matin, il est grognon, ça n'intéresse pas, il a son habitude, il veut le biberon.
En fait, on va plutôt lui donner son biberon et lui proposer.
Le pot, voilà. Et en fait, c'est comme ça que c'est en observant son enfant, en se laissant des temps d'observation, que c'est bon. Comme par exemple, quand le parent il rentre à la maison, peut-être qu'il passe un temps de jeu avec l'enfant, on retire la couche. Mais après, si on va cuisiner, que c'est compliqué, bah, on peut lui dire à l'enfant de remettre la couche parce que là, je ne vais pas être avec toi, etc. Il faut expliquer à l'enfant. Et l'enfant, il comprend très bien. Donc, l'hygiène naturelle infantile, parfois qui est associée avec du sans couche, il faut se dire qu'on peut le faire avec couche, mais on explique à l'enfant. Et pareil, je dis tout le temps aux parents, c'est comme quand vous demandez à vos enfants de mettre des bottes. Vous dites, ok, les bottes dehors, mais pas à la maison. Dehors parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, etc. Pas des bottes en été, par exemple. L'enfant, il comprend au début.
Il va râler,
mais il va très vite comprendre. Et en fait, on ne pointe pas lui, on ne le pointe pas du doigt en disant qu'il n'est pas capable. Je te mets une couche parce qu'en fait, tu ne sais pas te retenir.
Oui, on explique le contexte et finalement, on ne met pas la faute sur nous, mais...
Ah si.
C'est comme quand il commence à ne plus mettre de couches. Je me souviens, ma fille, on a dû prendre la voiture à peu près 3 semaines après qu'elle ait arrêté les couches. Bah, clairement, on lui a expliqué qu'on avait 5 heures de route et que c'était compliqué.
Je lui ai expliqué, bah si, dans la voiture, tu sais, ça peut être long. Voilà. Peut-être tu vas t'endormir, parce qu'on avait encore les couches la nuit pour les dodos. Et bah, finalement, on a remis la couche. Et puis en fait, bah, même si elle avait la couche, elle, à un moment dans la voiture, elle disait, ah, j'ai envie de faire pipi.
Elle vous le dit, et puis vous arrêtez.
Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où au départ, on remet la couche. Mais c'est vrai que quand ils sont plus grands, c'est plus facile. Moi, je vois mon fils, même s'il commence à être grand, mais parfois, c'est vrai que je lui explique des trucs et... J'ai l'impression, je pense pas que c'est pas qu'il comprend, mais c'est qu'en fait, il en a, je m'en fiche. C'est pas le moment de parler de ça, et voilà. Donc, je pense que c'est comme pour tout, il y a un bon timing pour l'enfant, pour le parent, pour la famille, finalement,
c'est
aussi.
C'est ça.
Lors de notre entretien, Rokia et moi avons parlé des signes bébés autour de ce besoin d'élimination. Une petite vidéo va être disponible sur Instagram et les réseaux sociaux. Elle va maintenant vous expliquer l'intérêt des signes bébés pour accompagner votre enfant vers la propreté, entre guillemets.
C'est vrai que peut-être que parfois, les signes comme pipi, caca, les enfants, ils vont des fois l'utiliser après.
Ouais.
Mais en fait, on va vraiment leur enseigner à le dire un petit peu avant.
Ouais, expliquer, c'est quand tu ressens.
On va leur expliquer. Et puis, c'est vraiment un allié qu'on utilise beaucoup en hygiène naturelle infantile. Parce que quand on va inviter, on va proposer l'enfant à aller éliminer peut-être au lavabo, aux toilettes ou sur le pot. En fait, à ce moment-là, on va lui dire clairement, bah, tu veux faire pipi ? Tu peux, viens, on va faire caca, en fait, on lui dit. Et quand il est en train de faire, moi, j'apprends à être, voilà, je porte le petit. Et je lui dis, bah, regarde, tu fais caca pendant qu'il fait caca. Tiens, tu fais pipi, en fait, voilà, je monte mon ventre. Et en fait, il associe vraiment que c'est l'action, tu vois. Parce que c'est quelque chose où il est acteur, voilà, de son propre corps. Et puis, comme ça, il apprend un peu à le dire un petit peu avant. Mais c'est vrai qu'au tout départ, quand il m'a fait les petits signes comme ça, je me suis dit, ah oui, mais moi, j'avais du mal à le croire aussi. c'est vraiment magnifique, oui, qu'on arrive à le décoder, quoi.
Oui, voilà, j'ai pas utilisé ces mots-là, c'est vrai que pour les enfants, j'ai pas fait. Mais bon, il y avait les autres, hein, il y avait le gâteau, enfin, il y avait bah, voilà, oui. Le encore. Bah, typiquement, enfin, le encore de mon fils, fallait comprendre que c'était encore au départ.
Ouais.
Mais, voilà, enfin, c'est comme tout, quoi. Il dit un truc, ça ressemble plus à un applaudissement, et en fait, ça voulait dire encore. Donc, je pense que les autres signes, c'est pareil.
Oui. Après, il se peut que l'enfant, il va utiliser un signe pour les deux.
Oui.
Enfin, il va peut-être utiliser celui-là parce que c'est plus simple pour lui. Alors qu'en fait, il fait pipi.
Oui, mais ça veut dire aller aux toilettes.
Oui, quoi, c'est en fait. Ça. En fait, c'est comment il communique. Mais oui, c'est vrai que c'est un bon allié, ça aussi.
Oui, oui. Bon, c'est un bon allié pour plein de trucs. Ça ne retarde pas du tout l'apprentissage du langage. Comme beaucoup de parents le pensent. Pour ceux qui n'ont pas fait, en fait l'accompagnement en amont, quoi, on va dire, de l'arrivée à l'école, etc., on entend souvent qu'un enfant ait enlevé les couches quand il va monter 2-3 marches d'affilée, quand il va savoir voilà, faire des choses d'un point de vue moteur, soi-disant parce que d'un point de vue anatomique, je sais pas quoi, les muscles, bon. J'avoue que moi, le concept du monter les marches en lien avec la vessie, j'ai un peu de mal à avoir le lien exact. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de rapport. Mais cette idée-là, en fait, elle n'est pas née nulle part. Donc, il y a sûrement une cause à ça, enfin, à cette idée reçue, entre guillemets. Toi, je sais que pour ton livre, tu as fait plein de recherches. Est-ce que, du coup, il y a... voilà, historiquement, il y a eu... enfin, j'en sais rien, à un moment, il y a quelqu'un qui a dit ça. Il y a... quelle est la logique, en fait, dans cette idée reçue qu'il faut monter des marches pour pouvoir être propre.
En tout cas, je suis rassurée parce que toi, en tant qu'ostéopathe, tu vois bien que le lien, il n'y en a pas. Et puis, s'il y en a un, il faut vraiment, vraiment le chercher. Et du coup, c'est intéressant, comme tu dis, de remonter dans l'histoire. Je vais prendre d'abord l'histoire française, où on rappelle quand même qu'il y a une époque, l'approche de la continence était coercitive. Donc, c'est-à-dire qu'on posait les bébés sur des peaux toute la journée, il n'y avait pas de couche encore, disons. Et du coup, Françoise Dolto a dit, bah, en fait, on va un peu libérer les bébés en fait, de cette approche, puisque de toute façon, tant qu'ils ne montent pas les escaliers, ils ne pourront pas contrôler leur sphincter. Elle a établi l'âge de 18 mois. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins à l'époque, on commençait à 18 mois. Aujourd'hui, on ne commence pas à 18 mois. Donc, l'âge de premières approches, apprentissage du pot, ne fait que retarder. On peut le voir ça aux États-Unis. Il y a des recherches qui ont été montrées. Donc là, d'un côté, c'était vraiment l'histoire de libérer les bébés. Quelque part, tant mieux, parce que quand on passe une approche coercitive, au moins, ils sont tranquilles pendant 18 mois, j'ai envie de dire. Mais il faut savoir aussi qu'en parallèle, aux États-Unis, ça, c'est plutôt Brazelton qui a dit que les enfants, avant 18 mois, bah, ils ne seraient pas matures pour faire ça, pour proposer le pot, que ça ne sert à rien et que de toute façon, il y a des couches maintenant. Mais Brazelton a écrit pour Pampers en même temps, qui venait donc voilà, de vendre un peu les premières couches jetables, la révolution. On peut un peu y voir un petit conflit d'intérêts. Et puis, il y a aussi une façon assez ethnocentrée aussi, je précise, de voir le besoin d'élimination. Là, vraiment, j'ai un grand chapitre dans mon livre qui est consacré à ça, où en fait, le besoin d'élimination n'a jamais vraiment intéressé les chercheurs hommes. C'est un truc de femme, hein, de bonne femme. Donc, ils n'ont jamais vraiment cherché. Et puis, tiens, hop, pour l'intérêt des couches, pour l'intérêt de tout ça. Brazelton a fait une conclusion un peu rapide, dans le sens où si on leur propose trop tôt, ils vont avoir des difficultés au niveau du développement après.
D'accord.
Donc, historiquement parlant, ça vient à peu près dans les mêmes années, 60-70, avec en même temps les couches. Donc, c'est un peu difficile de se dire que c'était vraiment pour l'intérêt vraiment de l'enfant.
Oui, donc, est-ce qu'il y a vraiment un lien ou est-ce que finalement, c'est un âge qui était pratique et où l'enfant commençait à bien marcher, à grimper les marches, etc.
Voilà, c'était plutôt pratique. Mais comme je disais, ce qui est plutôt inquiétant, c'est de dire, bon, bah, si c'est comme ça, dans ce cas-là, on devrait commencer à 18 mois aujourd'hui, puisqu'à l'époque, on commençait. On voit bien que non, aujourd'hui, on fait que reculer. C'est là que, justement, on va avoir des fois des difficultés à initier le pot, on va être un petit peu dans la pression, et l'enfant, il a acquis une habitude de vie. Et c'est compliqué pour lui de tout changer si ça ne l'intéresse pas.
Oui, bah, c'est sûr. Après, c'est vrai que je pense que l'histoire des 18 mois et que ça recule, je pense que c'est le mode de vie quoi, qui se modifie. Les enfants, ils sont de plus en plus gardés jusqu'à l'entrée à l'école, alors que je pense que dans les années 60, c'était plutôt les mamans avant l'école. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui... mode de vie, globalement, dans lequel on vit, qui change, quoi.
Et il faut savoir aussi que... j'ai parfois eu quelques témoignages de parents, hein, que vraiment, s'il n'y avait pas l'école, le contexte social de groupe... ou un peu de pression un petit peu, parce qu'on se dit quand même il y a 20 enfants, enfin c'est compliqué, que s'il n'y avait pas cette pression, parfois les parents ne feraient pas.
Ah oui?
Ils attendraient, parce qu'ils ont vraiment cette idée.
Ils attendent que l'enfant dise c'est bon, quoi.
Voilà.
J'avoue que plus vite on se libère des couches, et mieux c'est, quoi.
Tada. Je suis bien d'accord.
C'est une corvée, ça permet d'enlever la table à langer. ça fait moins de dépenses, moins de déchets.
Ouais. Parce qu'il y a vraiment cette idée ancrée que, pour attendre que l'enfant soit prêt, qu'il sache faire ci, qu'il sache faire ça, c'est des choses qui sont en dehors finalement du besoin d'élimination.
Oui, mais les gens voient ça comme un bouton on-off. Ils ont les couches et ils sont prêts, ils font pipi, il n'y a plus de couches. Alors qu'en fait, c'est, comme on disait, c'est une acquisition, un apprentissage, ça prend du temps. Et voilà. Je pense que c'est une question, la couche, c'est une question de facilité.
C'est un peu comme pour la nuit aussi. La nuit, on peut en parler brièvement, mais les parents garderaient la couche la nuit. Ils ne vont pas se dire, tiens, je vais quand même peut-être un peu le mettre à l'épreuve pour retirer la couche. En fait, ils attendent vraiment que tout vienne de l'enfant. Il y a un chapitre dans mon livre qui a été écrit par Natasha Butzbach, psychologue vraiment en périnatalité, etc., qui, vraiment, le titre, je l'aime beaucoup, c'est « La couche entretient l'incontinence ». Parce que, en fait, l'enfant ne fait pas expérimentation, il ne découvre pas comment son corps peut fonctionner la nuit. Puis après, on se retrouve avec des enfants qui sont peut-être énurétiques, mais de manière, finalement, que provisoire. Et encore, on ne parle pas d'énurésie avant un certain âge. Mais les parents, au bout d'un moment, ils attendent à retirer la couche. Mmh. Mais comme c'est à la maison, ils gardent ça pour eux. Puis après, c'est là qu'ils demandent de l'aide. Mais en soi, il y a beaucoup de cette idée, on attend que ça vienne de l'enfant.
Surtout que maintenant, pour la nuit, moi, je sais que ma fille, elle a été propre deux jours très tôt. Et la nuit, c'était, en fait, le fait d'enlever la couche, ça l'angoissait. Vraiment, ça l'angoissait. Donc, OK. Et pourtant, le matin, la couche était sèche, mais ça l'a rassurée. Et en fait, après, j'ai trouvé, maintenant, on trouve des trucs extraordinaires sur Internet. C'était des petits shorts, en fait. À l'intérieur, c'est un tissu éponge. Et à l'extérieur, c'est un truc imperméable. Et en fait, pendant quelques temps, elle a mis ça. Ça a permis de faire la transition.
Tout
de
à
la
fait. Couche.
Et après, elle s'est rendue compte que finalement, oui, c'était bon. Enfin, c'était déjà bon avant, mais elle avait peur d'enlever sa couche qui la rassurait. Donc, on a fait cette petite transition-là. Et puis, voilà.
Mais du coup, tu vois, tu l'as écoutée et tu t'es en même temps écoutée toi et tu as trouvé le bon compromis. C'est pas à l'enfant d'imaginer. Mais tu vois, ça revient vraiment à ce qu'on parlait dans la journée. Enfin, c'est à nous de trouver le bon compromis pour aider l'enfant à progresser et pas le laisser dans un stade où, en fait, il peut passer à l'autre étape. Ouais.
Et c'est pareil, alors ça je le connais pas, mais j'ai vu sur internet, maintenant ils font des culottes, des slips d'apprentissage, donc je pense que c'est un peu le même principe. C'est des trucs qui sont censés, enfin, s'il y a un pipi, l'enfant sent que c'est mouillé plus que dans la couche a priori, parce que ça absorbe pas de la même façon, mais il semblerait que c'est quand même étanche et donc ça n'en met pas partout. Est-ce que d'après toi c'est une bonne idée ou...
Alors oui, c'est une très bonne idée, moi c'est d'ailleurs ce que j'ai proposé à mon fils aussi, donc il y avait la couche lavable, également ces culottes-là qui permettaient finalement d'attraper quand il était en train de faire pipi, et d'en parler tout de suite, parce que la couche lavable, bien que lui, il va sentir l'humidité, il va me dire qu'il a fait pipi après coup. Mais je ne pouvais pas être sûre qu'il l'avait fait, etc.
Le ressenti n'est pas le même, en fait.
C'est ça. Et j'étais pas sûre qu'il l'avait fait, donc je ne pouvais pas lui dire « Ah, tu es en train de faire pipi. » Alors, peut-être pas du tout, j'ouvre, elle est juste sèche. Là, au moins, avec la petite culotte, je pouvais voir, et je trouve que ça a vraiment un bon compromis. Et puis voilà, ça transitionne vers les petites culottes aussi. Mmh. Et les personnes qui ne voient pas trop à quoi ça ressemble. Finalement, dites-vous, c'est comme un peu les culottes menstruelles.
Ouais.
Voilà, moi, je la décris comme ça. Tout d'un coup, on voit ce que c'est, quoi. C'est une culotte rembourrée, quoi.
D'accord. Et parce que ça, le souci, c'est vrai que finalement, même pour les culottes, les slips et tout, souvent, on n'en trouve pas trop à taille avant 2-3 ans. Compliqué.
Ah, parce que c'est énorme de ne pas retirer la couche avant cet âge-là.
Moi, je sais que j'ai le problème. Mon fils, ses boxers, ils sont trop grands, quoi. Mais d'un autre côté, c'est une crevette et j'ai pas le choix.
Puis, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative, parce que comme ça, l'enfant, il est vraiment dans l'imitation. Enfin, moi, je suis vraiment favorable à ces petites culottes, mais comme ça, ça encourage aussi les parents à se dire, ah tiens, si c'est une petite crevette ou des petits, ça veut dire qu'on peut commencer à proposer le pot. En fait, tant qu'il n'y a pas ce genre de vêtements, le parent va se dire,
en fait, il n'est pas censé...
Exactement. Voilà.
Ouais. Ah oui, non, c'est sûr. Dernière question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu as une petite astuce, un petit truc qui t'aide à tenir dans tes journées de maman professionnelle, journée, semaine, mois, année? Des choses qui permettent de recharger les batteries? Est-ce que, j'en sais rien, tu vas faire ton footing tous les samedis matins, t'en as besoin? Est-ce que c'est ton petit thé avec ton petit carré de chocolat? Voilà, est-ce qu'il y a des petits moments, des petites choses que tu fais pour recharger les batteries au fur et à mesure de tes semaines?
Alors, comme les semaines sont variables aussi, c'est important d'avoir une routine quand même, pour éviter trop de charge mentale, mais avec mon métier, en fait, les semaines ne se ressemblent pas tout le temps. Donc, c'est compliqué. Donc, ça, je l'accepte. Je vis avec. J'aime l'idée de programmer, justement, dans mon calendrier, un temps pour moi, une sortie avec un enfant, une sortie avec l'autre. Ça me permet de me dire, j'ai un objectif que là, c'est peut-être un petit peu dur parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais là, je sais que j'ai quelque chose qui m'attend.
Pas forcément toute seule aussi, avec les enfants ou en famille ou comme ça, quoi.
Mais quand même, du temps toute seule aussi. Comme je disais, les journées ne se ressemblent pas, alors c'est compliqué. Mais au moins, je sais que j'ai un objectif et que si j'ai travaillé dur, c'était pour avoir ces moments-là. Parce que sinon, finalement, je travaille dur et j'en profite pas.
Ouais, très bien. Bah, je te remercie beaucoup pour cet échange très intéressant.
Je t'en prie.
Et bah, écoute, je te dis à bientôt.
Oui, à bientôt.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Rokia pour cet échange riche en informations. Nous espérons que vous avez appris encore plein de choses et que cet épisode vous aidera à mieux accompagner votre enfant dans cette acquisition de la continence. Quelques points importants à retenir d'après moi, mais ce n'est que mon avis. Tout d'abord, l'hygiène naturelle infantile peut être mise en place à tout âge, de la naissance jusqu'à cette fameuse « propreté » entre guillemets, autour de 3 ans. Et surtout, l'hygiène naturelle infantile ne signifie pas qu'il n'y aura pas de couche. C'est vraiment une façon d'envisager les besoins d'élimination de votre enfant comme un besoin primaire, au même titre que manger, dormir, et donc lui laisser la place et l'occasion de manifester ce besoin et l'accompagner au mieux dans ce processus. Donc pour accompagner au mieux votre enfant, l'élément principal est encore et toujours la communication, mais aussi l'adaptation à ses envies et à ses besoins en fonction des moments. Il y aura des hauts, il y aura des bas, des petits accidents, des plus gros, mais si vous vous lancez dans l'aventure, votre enfant aura le temps d'apprendre petit à petit et donc d'apprendre sans stress, alors foncez. Pour terminer cet épisode, je laisse la parole à mes enfants. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et de vos bouts de chou.
N'hésitez pas à vous abonner et à partager.